l'Institut des droits de l'homme du barreau de Montpellier a organisé la 4e édition des Joutes du Collège. Nous avons rencontré Maître Amparo Domingo, président de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Montpellier. Cette rencontre dans un café montpelliérain.
L'Institut des droits de l'homme du barreau de Montpellier a été créé en 1990, peut-être 91, je me trompe toujours, par M. le bâtonnier Bedel de Buzaringue. C'est une émanation directe du Conseil de l'Ordre des avocats. Il existait une commission qui était en charge des droits fondamentaux et cette commission a été transformée en institut dont la structure juridique est une association de 1901. Donc nous avons une indépendance juridique, de même que, évidemment, la présidente et les membres ont une indépendance en ce qui concerne le choix des projets, etc. Mais nous restons une émanation de l'ordre, et bien entendu, en ce qui me concerne, tout au moins, je réfère toujours à M. le bâtonnier des projets qui sont en cours, etc. Car le financement, eh bien, émane de l'ordre aussi. Et il est voté par le Conseil de l'Ordre. Donc, ces dernières années, nous avons été amenés à nous rendre devant le Conseil de l'Ordre pour présenter l'Institut, pour présenter les actions et pour expliquer la raison pour laquelle nous avions besoin. D'ailleurs, nous demandons en général un peu plus, mais bon, l'Ordre fait ce qu'il peut.
C'est de bonne guerre.
Voilà. Mais par contre, nous savons que nous avons le plein soutien actuellement de nos bâtonniers. Celui en place, donc, Monsieur le bâtonnier Rémi Lévy, mais le précédent également, Bernard Béral, et encore André Brunel, celui qui était là quand j'ai initié les Joutes des Collèges, dont nous parlerons tout à l'heure.
Absolument.
Voilà. Et le Conseil de l'Ordre également, je pense, nous suit et approuve les actions que nous faisons. Nous avons toujours des intervenants de qualité, et ce ne sont pas des intervenants qui sont là parce que nous les connaissons ou parce que juste ils ont l'art de la rhétorique. Non, nous prenons toujours des gens qui sont très pointus sur les sujets que nous traitons.
Alors justement, les sujets, vos sujets de prédilection sont plutôt lesquels? Vous avez une orientation particulière pour aborder cette question des droits de l'homme?
Je ne peux pas dire que nous avons une orientation sur les sujets. Puisque ce que je dis toujours quand nous faisons la réunion mensuelle de l'Institut à nos confrères, c'est vous avez des projets, soumettez-les aux membres de l'Institut, nous en parlons et nous voyons ce que nous pouvons en faire. Donc c'est totalement ouvert car les droits fondamentaux sont très larges, n'est-ce pas? Ils sont basés d'abord sur la déclaration de 1789, donc émanent quand même de la pensée française du siècle des Lumières, n'est-ce pas? Ils ont été ensuite repris et augmentés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous essayons de fêter chaque année. Cette année, nous la fêterons le 6 décembre, et c'est un colloque qui aura lieu, non pas le 10, mais le 6 décembre. C'est un colloque qui est organisé par Maître Amine Farage, et qui est la suite d'un colloque sur le devoir de mémoire que j'avais organisé il y a quelques années. Et le titre de ce colloque, c'est « Le devoir de mémoire au prisme des minorités ». Ça va être très, très, très intéressant. C'est sur les chrétiens d'Orient, sur les yézidis, sur les Rohingyas. Mais ça vient, si vous voulez, en continuité avec les lois mémorielles que nous avons traitées il y a quelques années. Vous voyez, donc il y a une logique. Et je peux vous assurer qu'il n'y a que des éminentes personnes voilà, qui vont intervenir, qui arrivent de l'étranger et qui ont été cherchées, qui ont été puisées là où il y a la connaissance de ce que nous voulons traiter.
Nous serons en
partenariat avec l'université.
Voilà.
Ensuite, bien sûr, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme et celle-ci aussi génère certains sujets et certaines discussions parce que là aussi, il y a une augmentation de la déclaration de base de 1789. Voilà.
Alors, l'un des événements les plus importants là, qui vient de se terminer, ce sont la 4e édition des Joutes. Des Joutes
Des Joutes des collèges.
Des Joutes des collèges. Alors, comment elle s'est passée cette quatrième édition par rapport, évidemment, aux trois précédentes?
Alors, écoutez, nous avons déjà eu d'excellentes joutes, je dois le dire. Mais cette année, les adolescents de quatrième débattaient sur l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme qui fonde notre méritocratie. Nous naissons tous égaux devant la loi. Ça, c'est une certitude. Évidemment, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas une détermination ensuite sociale, et de par la naissance et quelquefois de par la nature même de l'être humain.
La génétique,
bien entendu, ça c'est indéniable. Mais la suite, la deuxième partie est très intéressante, c'est-à-dire que les honneurs que tout citoyen a, il ne peut les avoir, je vous cite de mémoire et ce ne sont pas les mots exacts, il ne peut les avoir que parce que il rend service, n'est-ce pas, à la totalité des citoyens. Voilà. Le mérite, il se gagne par le travail, mais il se gagne aussi par l'utilité de l'action que l'on mène pour la totalité de la des membres de la société dans laquelle on vit. C'est ça l'idée de l'article.
Et ouais. Ça, c'est une belle ambition.
C'est le fondement de la méritocratie.
Ouais.
Alors, l'idée était de transmettre à ces adolescents la possibilité que donne la République de faire marcher l'ascenseur républicain et de se rendre là où ils veulent, avec les bémols que j'ai cités tout à l'heure, bien entendu, et de leur dire, et c'est ce que je leur ai dit en conclusion, que c'était la volonté et le travail qui étaient le moteur de cet ascenseur, leur travail.
Ouais, ça voilà. C'est un beau message.
Pour eux.
C'est ça.
À ne pas confondre avec certaines personnes qui nous disaient de travailler pour autre chose. Attention.
Oui.
Voilà. Mais je pense qu'on a très bien compris mon propos.
Oui, je pense aussi.
Voilà.
Et alors, donc combien de collèges lesquels, comment ça se passe? Voilà, ça s'organise par leur volontariat, j'imagine ou...
Oui. Ce projet n'a pu voir le jour. C'était une idée au départ. Et pardonnez-moi de dire que c'était la mienne, elle m'obsédait. Je voulais absolument transmettre aux jeunes les droits fondamentaux. Et sans le soutien immédiat des chefs de cour, quand j'ai initié ce projet, et du rectorat, eh bien le projet n'aurait pas pu, n'aurait absolument pas pu se réaliser. De même que de tous les confrères qui ont répondu présents, les premiers, on va dire les pionniers du projet, et bien entendu le bâtonnier qui était en place à l'époque, qui était le bâtonnier André Brunel, qui m'a laissé carte blanche pour monter ce projet.
Ouais. Donc finalement, votre projet a rejoint des préoccupations qui étaient les leurs.
Absolument.
Ou qui sont devenues les leurs d'une façon naturelle.
Absolument, c'est-à-dire ce projet a permis au ministère de la Justice, au travers de la Cour d'appel, et au ministère de l'Éducation nationale, au travers du rectorat, de renouer, et d'ailleurs de travailler sur d'autres sujets dans lesquels l'Institut n'a rien à voir, bien entendu, puisqu'ils sont en lien, bien entendu, la justice et l'éducation, pour essayer de faire au mieux pour les adolescents, bien entendu, mais de soutenir également ce projet qui avait pour but de transmettre aux enfants, bien sûr, les droits fondamentaux, mais pas uniquement. Ce n'est pas un concours d'éloquence. C'est un concours, si vous voulez, qui est basé sur la rhétorique aristotélicienne, qui se fonde uniquement sur l'argument.
Le raisonnement. Et non pas la prestance.
Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sophisme là-dedans. Il n'y a pas de posture. Il y a la capacité que nous cherchons à développer chez l'enfant du sens critique, mais également de la volonté de défendre ce qu'il pense en son âme et conscience. Attention, mais tout en écoutant l'autre et en respectant ce que l'autre pense. Et cette année, nous avons eu une clôture magnifique de l'équipe qui contredisait, d'une des deux parties, je ne sais plus ce qu'il défendait, mais j'ai trouvé ça magnifique parce que ça voulait dire que ces enfants avaient intégré beaucoup de choses. Un des participants a dit « Vous m'avez fait avancer dans ma pensée, mais je reste sur mes positions. »
formidable. C'est exactement votre projet, finalement.
C'était magique. C'était magique.
C'est ça. Alors, chacun garde voilà.
Mais il y a un instrument pour cela. Et l'instrument, c'est la langue française. Et donc, il s'agissait de faire comprendre à ses enfants qu'en apprenant la langue française, en la bichonnant, en l'améliorant, en apprenant du vocabulaire, ils pouvaient arriver à faire passer avec finesse leurs pensées. Et cela, à mon sens, et je le pense depuis de très nombreuses années, cela diminue la violence entre les enfants. Nous avions, avec la police et les enseignants, fait il y a très longtemps, c'était les années 90, un rapport sur la violence dans les collèges. Cela commençait déjà. Et j'avais écrit dans le rapport que si nous transmettions une langue fine à nos enfants, particulièrement aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'entendre cette langue depuis le départ.
Au quotidien.
Ils ont entendu une autre langue qui les enrichit aussi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, tout de même, en vivant en France, c'est en français qu'ils doivent communiquer. Et plus ils ont de vocabulaire et plus ils savent comment la syntaxe peut servir leur idée, eh bien, plus leur violence baisse parce qu'ils ne sont pas frustrés.
C'est ça.
Ils arrivent à dire ce qu'ils pensent.
C'est ça, ils s'expriment.
Ils s'expriment.
C'est une façon de s'exprimer.
Ouais. Voilà.
Bien, donc 4e édition qui vient de se dérouler, une 5e édition en perspective, probablement.
La convention a été signée pour 4 ans, madame. Guylaine, je devrais vous appeler. Mais elle se termine donc en décembre 2019. Nous avons tous très envie de la reconduire. Je dois vous dire qu'au départ, tous les collèges étaient des collèges de Montpellier. À présent, nous avons 3 collèges sur Béziers. Ce concours a été, si vous voulez, promu depuis le début d'ailleurs, par le rectorat, donc par Madame la rectrice qui était en place à l'époque, Madame Muller-Lepelec. Actuellement, c'est Madame Gilles qui a été enthousiaste aussi lors des joutes. Il a été promu en concours académique. Donc, lors d'une réunion avec les chefs de cours, c'est M. Pierre Valex et M. Gervais de Lafont, ainsi que Madame Gilles, la rectrice, et il y avait M. le bâtonnier André Brunel qui remplaçait Maître Lévy, qui était empêché. Nous avons parlé de ce projet académique. J'ai dit, ne faudrait-il pas élargir ce projet ?
Alors, un élargissement qui s'est fait cette année et qui probablement se continuera l'année prochaine à suivre. On verra ça au dernier trimestre de l'année, j'imagine.
Mais écoutez, Guylaine, non, nous allons commencer à travailler tout de suite. Nous allons commencer à travailler tout de suite. Et à minima, ce que je souhaiterais pour ces enfants, ça serait que ce concours soit maintenu malgré l'énorme travail que cela demande aux magistrats qui interviennent, aux greffiers, aux enseignants et bien entendu à mes confrères, car ces enfants sont formés toute l'année par 3 référents, un magistrat ou un greffier, un enseignant et un avocat.
Bien, à suivre. Vous reviendrez nous en parler sur FM+, dès que ce sera en route.
Ça sera avec grand plaisir.
Mais en attendant, vous avez d'autres projets, d'autres initiatives, d'autres ambitions, on peut dire, pour l'Institut du droit de l'homme. Et très prochainement.
Oui, il y a d'autres projets. Je vous ai déjà parlé d'un colloque. Il y a un autre colloque qui est en train de mijoter sur l'urgence et donc qui va réunir, si vous voulez, des médecins, des architectes, enfin, les pompiers, les policiers, les magistrats, les avocats, tout ce qui travaille sur l'urgence quand il y a la nécessité d'agir vite.
Intéressant.
Et bien entendu, ça touche au droit de la vie.
Ouais,
donc ça va être très intéressant. Ouais. Et surtout, ça va mettre plusieurs corps ensemble, si vous voulez. Ça va se dérouler. L'année dernière, la même équipe avait travaillé sur servir la République et les droits fondamentaux. Et ça va se dérouler, je suppose, comme l'année dernière, vers la fin du mois d'octobre ou de novembre. Je ne me souviens plus exactement. Voilà, donc ça, c'est un projet qui va être un très beau projet. Je connais maître Isabelle Durand et maître Cédric Lamourette et connais la qualité de leur travail. L'année dernière, ils avaient fait un travail remarquable. Je suis sûre que cette année, ce sera pareil. Et puis, il y a un projet plus international que nous portons depuis de nombreuses années, j'ai envie de dire, depuis justement ce colloque sur le devoir de mémoire où nous avions abordé le génocide arménien. Alors, je dois dire que bien avant, le bâtonnier Luc Kirkacharian, qui a des origines arméniennes, avait noué des relations avec le barreau arménien. Il est d'ailleurs membre d'honneur de ce barreau, voyez. Donc ça, c'était vraiment les prémices. Le colloque a apporté Naïra Zoroyan, qui est donc une de nos consoeurs arméniennes et françaises à présent également, qui travaille dans ce barreau. Et l'idée m'est venue de créer un projet avec ce pays, car je pensais que nous avions beaucoup à apporter, mais eux aussi ont beaucoup à nous apporter. Nous avons commencé par recevoir une délégation qui était la présidente de l'Assemblée nationale et l'ancien ministre de la Justice. Ensuite, nous nous sommes rendus à Erevan et nous avons signé une convention en présence de Monsieur l'ambassadeur de France avec le barreau et pour établir une collaboration. Nous avons ajouté à cela l'université française arménienne. Et là, je pars dans quelques jours pour mettre en place le projet qui sera, premièrement, un concours d'éloquence pour tous les juristes arméniens francophones et le prix sera un stage en France, dans une entreprise ou autre. Et également un colloque sur un sujet que nous allons choisir. Nos confrères arméniens sont très en demande sur la déontologie et le fonctionnement de notre ordre, puisque vous n'ignorez pas que c'est un pays qui a été sous le joug de l'Union soviétique longtemps et qu'à l'Union soviétique, les avocats étaient des fonctionnaires. Ce qui change la donne.
Oui, certainement.
Alors que nous, nous sommes un pilier de la République.
Oui, tout
à voilà. fait. Et ce projet, j'aimerais l'enrichir par, si vous voulez, des acteurs économiques qui se joindraient à nous pour vraiment créer un tissu économique au niveau des stages, mais aussi au niveau des investissements possibles.
Là-bas.
Là-bas. L'Arménie souhaite se développer dans le domaine de l'agriculture. Nous avons des agronomes à Montpellier. L'Arménie souhaite se développer dans toutes les technologies modernes. Nous avons des instituts brillantissimes à Montpellier. Et l'Arménie souhaite développer le tourisme car ils ont des montagnes magnifiques. Et nous sommes dans une région de tourisme et pouvons trouver des spécialistes. Donc j'espère pouvoir joindre à la délégation qui part fin octobre des acteurs économiques.
Bravo. On se revoit très bientôt.
Oui, j'espère. Et j'espère surtout que les acteurs économiques vont bouger, vont nous suivre, parce que tissu humain, ça ne veut pas dire aller dire bonjour à quelqu'un, lui serrer la main et partager un bon plat arménien avec un bon verre de vin. Ça, ce n'est que le début. Le tissu humain, c'est de travailler, d'échanger, de mieux se connaître, nous de mieux les connaître, eux de mieux nous connaître et de construire ensemble.
C'est ça. Un grand merci pour cet enthousiasme et ce dynamisme.
Je vous remercie, Guylaine.
J'apprécie beaucoup. À bientôt.
C'était Maître Amparo Domingo, président de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Montpellier. Cette rencontre a eu lieu dans un café montpelliérain. Au revoir.